hypothèse circulait depuis plusieurs jours dans les milieux médicaux sans que l'on sache l'expliquer. Les fumeurs semblaient moins touchés par le Covid-19. De cette constatation de terrain est née une hypothèse développée par les équipes de la Pitié-Salpêtrière et du neurobiologiste Jean-Pierre Changeux. Une étude a donc été menée. L'hypothèse et les chiffres que vous révèle France Inter ce matin, c'est donc que la nicotine et non pas le tabac protégerait du virus. Explication signée Véronique Julia.
L'étude a porté sur 350 malades hospitalisés et 130 patients plus légers accueillis en ambulatoire, tous testés positifs au Covid. On a regardé s'ils fumaient plus ou moins que la population générale, de même sexe ou de même âge. Conclusion, très peu de fumeurs parmi ces patients, explique le professeur de médecine interne Zahir Amoura qui a mené l'étude.
On avait un taux de fumeurs qui était de l'ordre de 5%, ce qui est bas. Il y a à peu près 80% de moins de fumeurs dans les populations Covid que dans la population générale de même sexe et de même âge.
Il y aurait donc quelque chose dans le tabac qui peut protéger contre le Covid. Et pourquoi pas la nicotine? Par l'entremise d'une connaissance commune, le prix Nobel de physique Serge Haroche, Zahir Amoura rencontre le neurobiologiste de renommée mondiale Jean-Pierre Changeux. Il suggère alors que la nicotine pourrait empêcher le virus de pénétrer dans les cellules.
L'idée est que la nicotine interférerait avec l'attachement du coronavirus sur le récepteur de la nicotine, donc puisse s'opposer à la propagation du virus.
Pas question pour autant de se ruer sur les cigarettes, l'hypothèse mérite d'être vérifiée, des essais vont donc débuter prochainement, d'autant que les autorités sanitaires semblent intéressées, des patchs nicotiniques vont être administrés à trois publics différents, des soignants en préventif, des patients hospitalisés, certains en réanimation, car la nicotine pourrait aussi atténuer la réponse immunitaire excessive qui caractérise lesquels les plus graves.
La nicotine, une arme contre le Covid, une révélation France Inter à lire aussi sur franceinter.fr. Pour le gouvernement, le contre-la-montre a commencé. Les ministres doivent remettre aujourd'hui à Matignon 17 plans d'action prioritaires pour orchestrer la vie d'après. Le point le plus important, c'est sans doute le retour à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé hier le calendrier envisagé, avec un retour en classe dès le 11 mai pour les grandes sections de maternelle, les CP et les CM2, et une montée en puissance les deux semaines suivante. Il reste encore beaucoup de détails pratiques à régler et quoi qu'il en soit, Alexis Morel, beaucoup d'élèves et d'enseignants devront continuer à travailler à distance.
Quelles que soient les modalités précises de la reprise, une certitude, la réouverture des écoles, ce ne sera pas la fin de l'enseignement à distance, loin de là. D'abord parce qu'en raison des demi-groupes, les élèves vont venir à tour de rôle dans les établissements. Un jour sur deux ou une semaine sur deux, ils devront donc sûrement rester chez eux et cela probablement jusqu'à l'été. Mais aussi parce que selon le scénario évoqué hier, les parents pourront refuser d'envoyer leurs enfants à l'école si et seulement s'ils suivent à la place un enseignement à distance. Le constat est vite fait, la part de cet enseignement à distance va donc demeurer très importante, peut-être aussi importante que le présentiel. Et c'est là que ça coince, les syndicats enseignants préviennent, on ne pourra pas cumuler classe face aux élèves et poursuite des cours à distance. Au ministère, on assure en avoir bien conscience, on ne demandera pas l'impossible, explique l'entourage de Jean-Michel Blanquer. Reste à imaginer une sorte de panachage entre les deux systèmes.
Les conditions de la reprise dépendront aussi des chiffres de l'épidémie. Le nombre de personnes hospitalisées et de malades en réanimation continue de baisser. 478 lits se sont libérés hier dans les hôpitaux et 250 en réa. Le bilan global en France est aujourd'hui de 20 796 morts. Et ce que redoutent aussi psychiatres et psychologues, c'est une deuxième vague psychologique. Après le confinement qui a généré son lot de peur et d'angoisse, c'est désormais le déconfinement et un possible retour au travail qui inquiète de nombreux Français. Le centre hospitalier Charles Perrin à Bordeaux a créé une plateforme d'écoute et de soutien baptisée Covid Psy 33. C'est un reportage de Thibault Lefèvre.
Depuis l'annonce du confinement, la plateforme a reçu environ 500 appels. C'est 10 fois plus que d'habitude, avec pour la moitié d'entre eux des patients comme Pauline qui n'ont aucun antécédent psychiatrique ou n'ont jamais consulté de psychologue.
Je fais des cauchemars.
Qu'est-ce qu'il y avait dans ces cauchemars ?
On me forçait à aller au travail et à prendre des risques. Et comment on peut reprendre dans 3 semaines ?
Ça vous inquiète ?
Mais, honnêtement, quand je vais faire mes courses, par contre, je suis pas bien. Je ne me vois pas reprendre dans 3 semaines quand même.
Marie-Amélie Delmas est la psychologue clinicienne qui a répondu à Pauline.
La perspective du déconfinement, je pense qu'elle peut être anxiogène. Et cette dame est assez lucide sur le fait que au 11 mai, on parle de déconfinement, mais en tout cas, l'épidémie ne sera pas arrêtée. Donc, il y aura un réel risque d'être contaminé. Ça s'appelle une anticipation anxieuse, en fait, dans notre jargon.
Et les cas d'anticipation anxieuse se multiplient, et notamment depuis la conférence de presse dimanche soir d'Edouard Philippe. C'est le constat du docteur Chantal Berger. Elle est responsable du pôle psychiatrie d'urgence de l'hôpital.
Après l'intervention du président Macron la semaine dernière, ça a été beaucoup plus calme ici, au niveau de la cellule. Donc on s'est dit que finalement les gens avaient eu une date. Là, ce week-end, il y a eu l'intervention du Premier ministre, avec un déconfinement qui n'en est finalement pas un si libre que ça. On a de nouveau eu près de 40 appels. Moi, je crains l'après. On est parti ici pour une bonne grosse année. Ouais.
Une année de suivi donc, avec en priorité deux publics qui ne se sont pas pour le moment vraiment manifestés, les personnels soignants et tous les gens qui ont perdu un proche mort du Covid-19 et qui n'ont pas encore pu faire leur deuil.
Eux n'ont jamais cessé de travailler et Emmanuel Macron va leur rendre hommage cet après-midi. Le chef de l'État doit se rendre en Bretagne pour visiter une exploitation agricole et un supermarché. Selon une enquête de l'UFC Que Choisir, le prix des fruits et légumes a augmenté en moyenne de 9% entre début mars et début avril. Une hausse qui s'explique par un coût plus élevé du transport, des emballages supplémentaires et la mise en avant de produits français de meilleure qualité mais plus chers. De nombreux secteurs sont très touchés par cette paralysie de l'activité économique et les entreprises qui étaient déjà fragiles auront du mal à s'en remettre. Ainsi, Presstalis est en dépôt de bilan. La coopérative qui assure les trois quarts de la distribution de la presse en France a annoncé hier s'être déclarée en cessation de paiement auprès du tribunal de commerce de Paris. Une procédure, selon sa direction, sans conséquences immédiates sur ses activités. Alexandra Hakoun.
Depuis son arrivée mi-février, le nouveau PDG de Presstalis, Cédric Dugardin, tente de mettre au point un énième plan de restructuration. Un plan à 100 millions d'euros qui maintiendrait une distribution commune des quotidiens et des magazines. Les éditeurs de la presse quotidienne sont pour. Ceux des magazines refusent d'en entendre parler. Et tout le monde s'écharpe. Jean-Marie Charon, sociologue des médias.
Pour avoir à l'esprit que les quotidiens pour être distribués, évidemment, doivent être distribués tous les jours avec des flux très importants, donc des coûts supplémentaires. Historiquement, on sait qu'il y a un déséquilibre entre les systèmes et on est arrivé à un point où ceux qui finalement soutenaient le système, c'est-à-dire les magazines, ne veulent plus le faire.
Le ministre de la Culture, Franck Riester, a bien évoqué la semaine dernière travailler à un plan global de la filière presse avec Bercy, plan qui prendra en compte la question Presstalis, mais jusqu'à quel point l'entreprise n'a pas versé un centime du produit de leur vente aux éditeurs depuis décembre dernier. Thomas Edan, directeur du bimestriel indépendant La 7e Obsession.
Moi, j'ai 50 000, 60 000 dehors à peu près. Heureusement qu'on a quand même des abonnés, de la pub. Mais si vraiment ils ne nous payent rien du tout, soit on met la clé sous la porte, soit on est obligé de faire un financement participatif ou un emprunt bancaire.
Alors Thomas Edan en appelle à l'État sous peine de voir nombre de publications indépendantes tout simplement disparaître.
La presse encore avec le placement en liquidation judiciaire hier de Paris-Normandie. Le quotidien régional va continuer à paraître durant 3 mois dans l'espoir que des repreneurs se manifestent. Le quotidien emploie 216 salariés. Puis les salariés d'Amazon sauront vendredi si la cour d'appel de Versailles autorise la plateforme à vendre tous ses produits et pas seulement ceux considérés comme essentiels. En attendant, la direction a décidé de maintenir tous ses entrepôts français fermés.
France Inter, il est 7h09 en Grande-Bretagne. La gestion de l'épidémie, Agnès, par les autorités est clairement remise en cause par les députés.
Des députés qui reprennent leurs travaux aujourd'hui via une première séance numérique. 50 élus à Westminster, les autres en visio. Une séance à laquelle Boris Johnson ne participera sans doute pas. Le Premier ministre est toujours convalescent. Lui-même touché par le Covid-19 dont il a visiblement sous-estimé la dangerosité. Antoine Gignot est à Londres pour France Inter.
Il y a eu de lenteur. Voilà ce que dit Keir Starmer, le nouveau chef des travaillistes, qui pointe le manque de réactivité de Boris Johnson et de son équipe. Le début du confinement, les commandes d'équipements de protection, toutes ces décisions ont été prises trop tard. De fait, plusieurs patrons d'entreprises britanniques qui fabriquent des masques expliquent dans la presse qu'ils ont, dès le début de l'épidémie, proposé leurs services au gouvernement. Faute de réponse rapide, ils ont expédié leur matériel vers d'autres pays. En 4 semaines, 16 millions d'équipements de sécurité sont ainsi partis à l'étranger. Face au fiasco, Matt Hancock, le ministre de la Santé, explique que son équipe travaille pour être la plus efficace possible. Il continue de promettre 100 000 tests par jour avant la fin du mois. On dépasse à peine les 20 000 aujourd'hui et les résultats ne sont pas fiables. Le protocole développé par les services de santé britanniques va être abandonné. Il a probablement conduit plusieurs milliers de médecins et d'infirmières à retourner travailler dans les hôpitaux alors qu'ils étaient contagieux. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Attention au retour de la pollution après le confinement. Si toutes les études montrent une amélioration de la qualité de l'air depuis un mois, le Haut Conseil au climat met en garde contre le risque d'un effet rebond. Cet organisme indépendant lance un appel pour un plan de relance économique vert et dans un rapport publié hier soir, Sandy Dauphin, il formule 18 recommandations.
D'après une première estimation, les émissions de gaz à effet de serre de la France sont en baisse de 30% pendant les semaines de confinement, essentiellement parce que le trafic routier est quasi nul. Après le déconfinement, les émissions risquent de repartir de plus belle. Corinne Le Quéré, climatologue, préside le Haut Conseil au climat. Un plan de relance économique, oui, mais avec des contreparties environnementales.
Si on subventionne le secteur automobile pour redémarrer sans conditionnalité de transformer le parc automobile en voiture bas carbone, donc soit électrique, soit autre, eh bien, on va retourner exactement au point de départ.
La dégringolade historique du prix du pétrole est une mauvaise nouvelle pour la compétitivité des énergies renouvelables, mais c'est l'occasion de réduire de façon plus indolore les subventions aux énergies fossiles, celles qui émettent le plus de CO2.
C'est le moment, là, maintenant, d'enlever les exonérations fiscales, comme le remboursement de la taxe de carburant au transport routier, comme les exonérations aussi au niveau aérien, parce que, justement, le prix est très faible. Ça permet de faire passer les mesures nécessaires à un moment où elles auront le moins d'impact.
Sinon, prévient le Haut Conseil au climat, ce sera comme après la crise financière de 2008, une reprise, mais avec un rebond spectaculaire des émissions de gaz à effet de serre.
Une mise en garde visiblement nécessaire. Selon le Canard enchaîné, le MEDEF et l'Association française des entreprises privées auraient déjà plaidé pour un moratoire sur certaines normes environnementales futures. Enfin, le vernissage du Salon du Livre Rare aurait dû avoir lieu demain soir au Grand Palais à Paris. Il aura lieu, mais virtuellement. Ilana Mourioussef.
Jeudi à 17h, l'horaire d'ouverture prévu avant le confinement, les amateurs pourront aller admirer les livres rares proposés par les libraires. Aperçu des plus belles pièces avec Hervé Valentin, le président du Salon du Livre Rare.
Il y a un libraire français qui va proposer plusieurs documents autographes autour de Marcel Proust, tout à fait exceptionnel, puisqu'il y aura une page de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui avait obtenu le prix Goncourt en 1919. Il proposera également une lettre autographe de Marcel Proust, toujours, qui établit à l'avance le plan de À la recherche du temps perdu.
Parmi les clous du salon, une photographie d'époque de Charles Baudelaire et la lettre de rupture adressée à Victor Hugo par son grand amour, Juliette Drouet. C'est le libraire Michel Bouvier qui la vend.
C'est une lettre désespérée, elle fait 4 pages. Juliette a beaucoup écrit à Victor. Là, on est en 1851. Elle lui demande d'arrêter leur relation et elle lui dit même à un moment donné « Je ne suis plus même la 5e roue du carrosse ». Pourtant, on sait qu'elle va ensuite permettre à Victor Hugo de quitter la France à la fin de 1851 alors qu'il est dans une situation très très difficile.
On peut en voir une page en cliquant sur le lien qui renvoie au catalogue de Michel Bouvier sur le site du salon. Prix de vente 1 200 euros.
Et c'est à partir de demain, 17h.
Merci Agnès Soubiran.